Avec les attentats de Paris, le sujet d'actualité qui aura marqué cette année 2015 qui s'achève est sans conteste la crise migratoire qui touche l'Europe depuis plusieurs mois. Même si la Suisse n'a pas été choisie comme destination par ce flux de réfugiés, la thématique migratoire a lourdement pesé dans la campagne des élections fédérales de cet automne. Les mouvements de population à travers la notion de libre circulation, contestée par une majorité de Suisses, occuperont l'agenda politique l'an prochain, car l'application de l'initiative du 9 février 2014 ressemble toujours à la quadrature du cercle. Pour parler de ces questions, ce matin, nous accueillons dans notre studio de Lausanne jusqu'à 8h, Johann Rochel, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes vice-président du Forhaus, centre de réflexion sur la politique étrangère de la Suisse. Vous êtes docteur en droit et votre thèse a justement porté sur la politique d'immigration européenne. Puis vous avez publié cette année un ouvrage intitulé « La Suisse et l'autre, plaidoyer pour une Suisse libérale ». On a envie de rajouter à ce titre « libérale et ouverte ». Est-ce que vous nagez à contre-courant, Johann Rochel ?
C'est possible que ces temps-ci, je nage un petit peu à contre-courant. Je veux croire que je suis pas seul à penser que la Suisse, si elle est libérale, et vous avez raison de rajouter le mot ouverte, au fond, c'est une histoire de cohérence. Si on veut respecter les valeurs auxquelles on croit, pour lesquelles on s'est engagé dans l'histoire de ce pays, qui ont fait le succès de ce pays, eh bien, on doit prendre certaines positions lorsqu'on parle des étrangers, lorsqu'on parle de migration, lorsqu'on parle de présence, de vivre ensemble dans une société qui est forcément très diverses, comme l'est la société suisse. Et on doit penser ensemble, se vivre ensemble, c'est ma conviction, de manière libérale. Alors pas au sens du parti radical libéral, mais au sens d'un certain libéralisme philosophique, éthique.
Alors on voit qu'une majorité de Suisses semble en faveur de la fermeture du pays, contrairement à vous. On l'a vu le 9 février 2014, on l'a vu avec la victoire record de l'UDC aux élections fédérales. Cette majorité-là, elle a tort selon vous ?
Je ne sais pas si elle a tort. Je pense qu'il y a une réflexion de cohérence à faire, comme je l'ai dit, entre les valeurs que la Suisse a choisies et la réalité politique. Et la Suisse est très libérale, très ouverte, très coopérative avec l'étranger lorsqu'on parle business, lorsqu'on parle affaires, lorsqu'on parle économie. Par contre, étonnamment, lorsqu'on parle mobilité humaine, des personnes qui sont au fond les porteuses de ces idées, de ces projets économiques, qui sont simplement la réalisation concrète de cette mondialisation, qui s'invite à nos portes et qui demande de participer à un projet européen, à un projet suisse, là, d'un seul coup, on devient très frileux, on oublie nos valeurs, on oublie notre tradition, on oublie ce que j'irais jusqu'à appeler l'identité politique de ce pays, qui est un pays d'intégration, un pays de vivre ensemble, un pays où on a l'habitude de prendre et d'inclure différentes cultures, différentes façons de penser, différentes langues. On est en quelque sorte les experts de la mobilité, les experts de cette mondialisation organisée, intelligente. Et là, on oublie un petit peu ces valeurs. Et c'était au fond un peu le cri du cœur dans cet essai pour la Suisse libérale de dire « N'oublions pas spécialement sur cette question qui est essentielle, n'oublions pas nos valeurs, mettons-les en œuvre de manière plus cohérente. »
Peut-être que les Suisses qui veulent fermer le pays ont peur pour leurs privilèges ?
Alors, il y a certainement une question de privilège. J'entame la réponse à votre question sur les termes « fermer le pays ». Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, fermer un pays ? Un pays n'est pas une maison. Un pays n'est pas un stade dont on pourrait contrôler les entrées en fouillant les spectateurs. Un pays, c'est une communauté politique de 8 millions de personnes en Suisse. La majorité des gens, vous et moi, nous ne les connaissons pas. Mais on décide quand même de vivre ensemble. C'est ça la dimension politique de ce projet. On décide d'avoir des institutions en commun. On décide, chacun dans nos cantons, chacun dans nos communes, d'essayer de vivre ensemble au jour le jour. Et fermer ce pays, au fond, ça ne veut pas dire grand-chose. Et j'invite, on l'a entendu beaucoup, c'était un peu le mot-clé de cette année dans les médias, quand on dit fermer les frontières. J'invite les gens à s'interroger, qu'est-ce que ça veut dire au fond fermer les frontières ? La plupart du temps, ça veut simplement dire contrôler, de manière plus serrée, qui entre, qui sort. Alors on sait qu'en Suisse, il y a 1,3 million à peu près de passages de frontières chaque jour. Et fermer la frontière, ça veut dire contrôler plus assidûment, c'est passage de gens, de marchandises, de personnes. Alors il y a beaucoup de problèmes techniques, beaucoup de problèmes pratiques. Si simplement on se mettait à contrôler de manière plus ou moins sérieuse ces transports, ces passages de frontières, on aurait des difficultés immenses. Mais fermer le pays, au sens fort du terme, à mon avis, ça ne veut strictement rien dire. C'est un mot-clé qui se répète comme ça. Mais on ne peut pas fermer un pays, il y a une impossibilité. Et surtout, c'est le point essentiel, on ne devrait pas le fermer. Je pense que la Suisse est foncièrement plus forte lorsqu'elle coopère avec l'étranger, lorsqu'elle agit de manière souveraine, au sens de la défense de ses intérêts. Et pour défendre ses intérêts, elle doit collaborer, elle doit coopérer avec l'étranger. À mon avis, là, il n'y a pas d'autre solution possible.
Mais comment vous expliquez, même si vous décrivez que c'est illusoire de fermer le pays, comment vous expliquez que cette utopie, cette illusion vendue par certains partis marche à ce point-là en Suisse aujourd'hui ?
Elle marche à ce point-là, à mon avis, et elle traduit en ce sens-là la faiblesse des autres partis, la faiblesse d'un autre discours pour justement montrer cette Suisse souveraine, qui est une Suisse qui vit en accord avec ses valeurs et qui a vraiment les moyens de défendre ses intérêts. Et paradoxalement, c'est un peu ça vraiment le cœur du sujet, l'histoire de ce pays a été une histoire d'ouverture, de coopération avec l'étranger, d'accords commerciaux, d'accords économiques qui a tout le temps apporté son lot de prospérité à ce pays. Et d'un seul coup, on a un autre narratif du pays, une autre histoire, une autre façon de raconter l'histoire de ce pays qui s'est petit à petit imposée. On pensera notamment à 1992, le vote sur les haies comme moment clé de cette nouvelle narration de cette histoire du pays. Et je pense qu'il faut maintenant se mettre vraiment à la tâche. Et là, tous les autres partis sont en quelque sorte, devraient être à pied d'œuvre pour vraiment développer un autre narratif, reprendre au fond ce qu'a été l'histoire de la Suisse, interpréter ce qui est la réalité de la Suisse aujourd'hui pour la mettre dans une lumière de cette Suisse qui gagne, de cette Suisse qui coopère, de cette Suisse qui est, au fond, l'ami, le coopérateur de ses relations avec l'Union européenne et avec le vaste monde au-delà de l'Union européenne.
Mais le vaste monde fait parfois peur. On voit les migrants d'une autre religion que les Suisses, peut-être avec des terroristes qui se cachent parmi eux. En tout cas, c'est ces peurs qu'on agite. Aujourd'hui, comment répondre à cette peur profondément ancrée dans les tripes des Suisses, peut-être ?
Alors je pense qu'on a tout à fait raison d'avoir peur si un terroriste qui sonne à notre porte privée, cette fois-ci de notre maison, je pense qu'on aurait raison d'avoir peur. Dans un pays, à nouveau, le pays n'est pas une maison, qu'est-ce qu'on va faire pour gérer les terroristes ? Alors il y a toute une question de sécurité et il faut la traiter en tant que telle, c'est une question de sécurité. Laissons les services de renseignement, laissons la police, laissons même, dans certains cas, peut-être l'armée faire son travail. Et distinguons tout ça de la question migratoire et distinguons ça encore d'une autre question, la question du vivre ensemble. Premièrement, le vivre ensemble. La Suisse est une société profondément pluraliste. On en parlait avec la mort de François Gross, une époque du canton de Fribourg. Moi-même, je suis originaire du Valais. La Suisse évolue. Le canton du Valais, le canton de Fribourg, tous les cantons de ce pays ne sont plus ce qu'ils étaient dans le passé. On a quitté le modèle d'une société homogène, pour peu qu'il aille exister une fois ou l'autre, pour avoir une société profondément pluraliste. Les gens ont des opinions différentes, ont des valeurs différentes, ont des projets de vie différents. Et ça, c'est la nouvelle données de base qu'il nous faut accepter pour penser le vivre ensemble. Et c'est pour ça que le livre s'appelle « La Suisse et l'autre ». Et l'autre, c'est pas forcément l'étranger. Je peux être bien plus proche d'un étranger si j'ai la même passion, si j'ai le même métier, si j'ai les mêmes valeurs, que d'un Suisse qui a peut-être une autre façon de voir sa vie. Et c'est à mon avis cette diversité des façons d'approcher la vie, d'approcher notre vie en société qu'on doit pouvoir mettre ensemble. Mais il faut la distinguer de la question des immigrants. Et la question des immigrants, vu qu'on y vient, cette année en 2015, ça a surtout été, il faut le dire, la question de l'asile. On a beaucoup moins parlé de la libre circulation des personnes avec l'Union européenne pour se concentrer sur la question de l'asile, cette migration qu'on dit forcée, parce qu'on a des gens qui fuient un conflit pour venir demander de l'aide, demander protection à l'Europe. Et là, il faut aussi bien se rendre compte que cette réalité migratoire, elle s'impose à nous. On a beau décider de tourner la vis de la loi sur l'immigration ici un petit peu, de la loi sur l'asile ici encore un petit peu, cette réalité, elle va s'imposer à nous. Et la seule solution politique intelligente qui nous reste, c'est justement de chercher à organiser, de chercher à accompagner ces mouvements de migration et d'être au fond, et c'est peut-être mon appel de ce matin, d'être au fond relativement fier de vivre nos valeurs en se prêtant les garants de cette tradition humanitaire. Alors disons-le, passons pas seulement à la tradition, pensons à un futur humanitaire, essayons d'imaginer une Suisse qui serait fière de ses valeurs. Et le mot-clé, à mon avis, dans cette discussion, s'il y a un message à faire passer pour le 2016, ça devrait être celui d'un certain panache. Ayons le panache de dire, la Suisse, elle va accueillir cette année 39 000 requérants d'asile, c'est magnifique. La Suisse, par ses accueils de 39 000 requérants d'asile, elle montre qu'elle croit à ses valeurs et en plus qu'elle laisse suivre une certaine réalité, qu'elle met en œuvre ses idéaux.
Mais Johan Rochelle, vous décrivez une Suisse ouverte, déjà libérale dans les faits. Est-ce que vous ne négligez pas la Suisse, disons, périphérique au profit de la Suisse urbaine dans laquelle vous vivez, qui peut-être prend le dessus sur c'est l'autre Suisse qui existe aussi. Est-ce que vous ne la négligez pas, celle-là ?
Alors, dans la question que vous posez, il y a une réalité, c'est que la migration est avant tout un phénomène urbain. La migration, c'est une question de vie.
Et c'est là qu'elle est acceptée.
C'est là qu'elle est acceptée et c'est là qu'elle a lieu, je dirais, avant toute chose. Et donc, les villes sont des acteurs absolument essentiels lorsqu'on parle de politique migratoire et c'est souvent auprès des villes ou auprès de certains cantons urbains où la distinction n'est pas très claire, on pensera à Genève, on pensera à Bâle, où il y a des politiques progressistes, intéressantes, intelligentes qui se mettent en œuvre. Je pense pas que cette fracture, elle est si présente que ça. On la voit en lendemain de votation. Au jour le jour, je pense que c'est à nous de faire vivre ce projet suisse en incluant tout le monde. Vous avez raison de souligner qu'il faudrait se méfier d'un discours qui passerait par la ligne des grandes villes entre Genève et Saint-Gall et oublierait les cantons dits périphériques. À nouveau, je suis moi-même originaire d'un canton dit périphérique. Et paradoxalement, prenons l'exemple du Valais, c'est ces cantons périphériques, on le voit bien cette saison hivernale, qui parfois accueillent le plus d'étrangers et qui ont un rapport très décomplexé à l'étranger quand celui-ci est un touriste. Par contre, on a un rapport un peu plus difficile quand celui-ci est un requérant d'asile. Là aussi, cette affaire de cohérence, ayons le courage de dire accueillons les personnes qui ont besoin de protection, accueillons les personnes qui viennent chercher chez nous du bon temps, qui tentent de skier, ces temps-ci on ne peut pas dire ça autrement, Et faisons cet effort de cohérence entre ces différentes personnes, accueillons-les pour ce qu'elles sont, et ayons le courage de voir, cette fois-ci un peu plus à moyen, voire long terme, les intérêts de la Suisse à long terme. Et là, c'est clair qu'ils sont là. Ceux qu'on accueille aujourd'hui comme requérants d'asile, il faudrait se revoir dans 20 ans à ce même micro pour faire un bilan. Et je fais le pari qu'il sera positif.
Alors on prend rendez-vous. On vous propose, Johan Rochelle, de réagir à la presse du jour, notamment la presse alémanique avec Rouven Gassa qui nous a rejoint dans ce studio avec cette grande interview du ministre luxembourgeois des Affaires étrangères et des Migrations, Jean Hasselborn, dans la Neue Zürcher Zeitung.
Oui, le ministre fait le bilan de la présidence du Luxembourg, de l'Union européenne, avec une actualité 2015 marquée évidemment par la crise des migrants. Elle va nous accompagner pendant au moins une décennie, prévient Jean Hasselborn. Nous nous sommes efforcés de la gérer selon trois critères, dit-il, l'humanité, la solidarité et Schengen. Dans ce sens, le renforcement des contrôles aux frontières n'est pas anti-Schengen, dit-il encore. Mais nous devons savoir qui vient chez nous et pourquoi. Le ministre critique en revanche l'attitude des pays de l'Est, la Pologne en tête. Le pays entreprend des réformes judiciaires contre l'avis de Bruxelles et on sait que Varsovie a fait part d'une très grande sévérité sur la volonté de l'Europe de relocaliser rapidement 160 000 réfugiés. C'était le moment le plus délicat de notre présidence, confie Jean Hasselborn, pour qui nous ne sommes plus dans l'Union soviétique où on n'osait pas se mêler des affaires des autres. Si on laisse passer, l'Union européenne ne serait plus une communauté de valeurs. Jean Hasselborn qui y croit donc encore.
Johan Rochelle, est-ce que vous y croyez encore? Est-ce que l'Europe fonctionne encore quand on voit certains pays membres qui refusent de collaborer à la répartition des réfugiés, des migrants?
Bien entendu, l'Europe fonctionne encore. Là, il y a à mon avis un biais du débat politique européen en Suisse, qu'on a tendance à prédire presque au jour le jour la fin de l'Union européenne, la fin d'un modèle, la fin
d'une construction européenne.
Il y a des difficultés, bien entendu. Ça serait quand même extraordinaire qu'il n'y ait pas de difficultés. En un demi-siècle, on a une construction européenne qui met ensemble 28 États membres, dont certains étaient des anciens pays communistes. Bien entendu qu'il y a des difficultés, bien entendu qu'il y a des défis. Je rappelle que la Suisse s'est faite en pas mal de temps, il a fallu mettre ensemble tous ces cantons. Imaginons le défi à l'échelle de 500 millions de citoyens de l'Union européenne. Donc bien sûr, il y a des défis. Ça ne veut pas dire que la construction européenne va s'effondrer demain. Les Suisses seraient bien inspirés de se rappeler cette leçon au jour le jour. Sur la question de l'année écoulée, alors maintenant, d'un seul coup, après les attentats de Paris, on parle plus de Schengen. On a beaucoup parlé de Dublin, au fond, qui est certainement le critère clé quand on parle de l'accueil des requérants d'asile en Europe. Et là, moi aussi, je me souhaite une Suisse qui ait un peu plus de panache. Alors la Suisse est dans une situation un peu paradoxale avec Dublin. On fait partie de l'accord, mais on a une voix consultative seulement. Lorsque Simonetta Sommaruga se rend aux rencontres des ministres pour parler de la réforme du système de Dublin, la Suisse peut faire valoir une voix, mais n'a pas droit à la codécision. Et là, je me souhaiterais une Suisse qui se voit un peu comme un centre de compétences, un think tank pour des idées, pour développer ce projet de Dublin. On l'a vu, Angela Merkel est venue en Suisse nous rendre visite pour s'inspirer de cette expertise suisse. La Suisse a l'expertise de répartir des gens entre différents cantons, de parler péréquation financière, de parler gestion des compétences à différents échelons institutionnels.
La Suisse est peut-être un peu plus centralisée que l'Europe, vous êtes d'accord avec ça?
Certainement, la Suisse est un État au sens fort du terme. L'Union européenne est une construction un peu entre un État, une organisation internationale se cherche, une organisation qui évolue au jour le jour. Mais sur la question de la répartition des migrants, là, je pense que la Suisse a une vraie carte à jouer. Et j'aimerais voir cette Suisse qui va proposer des idées, qui se fait force de proposition pour dire, voilà, on pourrait imaginer un système de Dublin qui fonctionnerait comme ça, qui fonctionnerait à l'avantage des États membres, on pense à la Grèce, on pense à l'Italie, mais qui fonctionnerait surtout à l'avantage des requérants d'asile. Tant que le système fonctionnera contre systématiquement les intérêts des requérants d'asile, le système mais voué à l'échec, c'est ce que j'appelle le syndrome Zalando du système de Dublin. Tant qu'on envoie les gens comme des paquets à gauche à droite, ça ne fonctionnera jamais, et ça, il faut simplement prendre conscience.
On retient l'image. Est-ce qu'il faut plus de... Vous dites qu'il faut plus de Suisse dans l'Europe, en quelque sorte. Est-ce qu'il faut plus d'Europe aussi, comme par exemple une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes? Là encore, ça ne fait pas l'unanimité. Une résistance du côté de la Pologne, ça prend du temps. Les dirigeants européens qui se sont donnés jusqu'à juin 2016 pour finaliser le projet. Est-ce que plus d'Europe, c'est la solution, selon vous?
Quand l'Union européenne est confrontée à une crise, la réponse est souvent plus d'Europe. Et c'est dans la nature des choses. Si on veut coordonner, si on veut harmoniser certaines pratiques, forcément, il va falloir mettre en place des systèmes communs. À nouveau, la Suisse connaît bien ça. Les cantons ne peuvent pas, eux, gérer chaque demande de requérant d'asile.
C'est centralisé leur souveraineté, vous êtes d'accord?
Pardon?
Ils ont abandonné bien volontiers leur souveraineté. Ce qui n'est pas le cas de certains États aujourd'hui, notamment en l'Est, notamment la Pologne, qui veut gérer elle-même ses frontières.
Alors sur la question des frontières, on touche vraiment à une symbolique politique dans les États membres, mais aussi l'Union européenne, et la Suisse là fait entièrement partie de ce débat lorsqu'on parle de Dublin, ont tous au cœur de ce que les États veulent contrôler. Parce que ils sont redevables vis-à-vis de leurs citoyens. Là, il y a vraiment des comptes à rendre sur la politique d'immigration, parce qu'on touche à, au final, à qui a le droit de se déplacer sur notre territoire national. Donc là, c'est clair qu'on touche à une composante essentielle. Je ne parlerai pas d'abandon de souveraineté. À nouveau, quand la Suisse a décidé de faire partie du régime de Dublin pour répartir les requérants d'asile, on a décidé d'activer notre souveraineté. À mon avis, c'est vraiment la preuve de la souveraineté. On fait notre choix de participer ensemble. Si la Suisse était en dehors du régime de Dublin aujourd'hui, elle serait seule. Ça serait l'alternative pour tous les requérants d'asile européens. On tente en Europe, puis on se dirige vers la Suisse pour retenter sa deuxième chance. Est-ce que là, la Suisse serait vraiment souveraine? Non, bien sûr que non. Elle est souveraine si elle participe à ce régime de Dublin. Et là, je pense que ça, c'est aussi une discussion qui va nous accompagner en 2016, en arrière-fond, de dire qu'est-ce qu'on veut comme souveraineté pour la Suisse? Une Suisse vraiment souveraine, qui a les moyens de défendre ses intérêts, qui a les moyens de co-décider, ou une Suisse qui fait la tactique de la tortue, qui imagine qu'en se recroquevillant, en se mettant sous sa carapace, elle va être plus forte?
Eh bien, on en parle justement dans la presse romande du jour, que vous avez lu pour nous, Michel Hamann, l'initiative de l'UDC, intitulée « Pour le renvoi effectif des étrangers criminels », l'initiative de mise en œuvre recueille 55% de oui dans un sondage publié récemment.
En effet, si les Suisses avaient voté à la mi-décembre, ils auraient donc dit oui, note la Tribune de Genève 24 heures. Mais on sait qu'en général, au fur et à mesure que l'on se rapproche de la date de votation, les oui aux initiatives fondent. Les deux quotidiens font donc le décompte des adversaires du texte, et en première ligne, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. Elle sera appuyée par le futur président de la Confédération, Johann Schneider-Hamann, et par Didier Burkhalter. Les deux PLR devraient s'engager publiquement dans la campagne. En outre, trois comités du non s'apprêtent à sortir leurs épées du fourreau. Enfin, les cantons vont eux aussi entrer en scène ces prochaines semaines. Conclusion, la bataille sera chaude.
Et Johann Rochelle, comment vous allez la mener cette bataille alors?
Alors, on va sortir notre épée du fourreau pour reprendre la belle image. Je pense que cette initiative du 28 février, dite de mise en œuvre, est extrêmement dangereuse à plus d'un titre. Premièrement, parce qu'elle prend en otage le Parlement fédéral. Et je pense que c'est là qu'on a vraiment atteint un nouveau niveau dans la provocation vis-à-vis des politiciens du pays, vis-à-vis de, au fond, ceux qui font les lois. Et on a vu la réaction du Conseil des États est salutaire à ce titre-là, de dire « Ensemble, on va signer une lettre ouverte pour dire non, ça ne va pas. Nous étions en train de faire notre travail de parlementaire quand on vient tenter de nous mettre la pression de court-circuiter le travail parlementaire classique avec une initiative populaire. Ça ne va pas, on ne peut pas accepter
ça. » Le Parlement avait manifesté quand même l'envie de revenir au contre-projet qui avait été refusé par le peuple.
On touche au deuxième point problématique de cette initiative, vous m'offrez là une transition parfaite, c'est que cette initiative, elle demande au fond d'abolir cette idée essentielle du fonctionnement d'un État qui est vraiment un État au sens fort, c'est cette idée de proportionnalité. Quand l'État agit, il prend en compte les conditions particulières d'un cas. Il ne juge pas les gens simplement en les mettant tous dans le même panier, puis en disant que tu aies cette situation personnelle, au fond, ne nous intéresse pas, tu seras de manière automatique expulsé du pays. Et là, les Suisses l'ont accepté, ce principe. C'est dans la Constitution de 1999. Et donc, on se retrouve avec des citoyens qui veulent deux choses incompatibles. Ils veulent un État qui agit de manière proportionnelle, mais ils veulent un État qui expulse de manière automatique. Et là, on doit clarifier les choses.
Peut-être une certaine sévérité envers les étrangers criminels, et ce texte porte cette idée-là, peut-être pas avec les méthodes que vous prenez, mais il est entendu de cette méthode-là. Cette méthode-là est entendue par les votants.
À nouveau, c'est pas les méthodes que Johann Rochelle prône le matin dans le journal. C'est simplement les méthodes que les Suisses ont acceptées dans leur constitution comme un principe fondamental de l'action du pays. Et il faut simplement faire cet effort de cohérence. Si on veut un État qui respecte la proportionnalité, alors l'expulsion automatique des criminels étrangers n'est pas acceptable. On peut tout à fait monter le niveau de sévérité, dire on expulse pour tel ou tel, mais on garde cette idée de l'examen individuel, la proportionnalité. Lorsque le juge décide d'expulser quelqu'un, il ne peut pas le faire simplement de manière automatique. Sinon, on nie son travail de juge, on nie les possibilités de travailler pour lui. Et si vous me laissez ajouter un dernier point sur cette initiative du 28 février, il y a une question qui se cache, et le texte est long, donc j'encourage vraiment les citoyens et citoyennes à lire jusqu'au bout. Ça, c'est aussi un problème esthétique. On ne peut pas mettre ce texte dans la Constitution, c'est une loi. La Constitution n'est pas le lieu des lois. L'article Romains 4, tout à la fin, soulève la question dont on va parler pour une autre initiative, du rapport entre le droit suisse et le droit international. Et là, c'est déjà dans cette initiative du 28 février, cette idée de dire, quand la Suisse aura pris la décision d'expulser un étranger, la compétence, notamment de la Cour de Strasbourg, quand on parle de la Convention européenne des droits de l'homme, sera inopérante. On ne respectera pas les arrêts de la Cour. Et donc, même si pour l'autre initiative, on est dans la phase de récolte des signatures, cette discussion, elle est déjà là. Elle va s'imposer à nous le 28 février. Et il faut en prendre conscience que ça ne sert à rien d'attendre l'autre initiative. Cette question du rapport entre le droit suisse et le droit international, la cohérence des engagements de la Suisse, elle est déjà là dans l'initiative du 28 février. Il faut en prendre conscience. Et c'est, à mon avis, une raison supplémentaire de rejeter ce texte avec la plus grande sévérité possible.
C'est un tour de chauffe. Donc, les autres points forts de la presse, Rouen Guessa, Michel Eman.
Il y a l'hommage rendu par La Liberté à son rédacteur en chef François Gross, disparu hier à l'âge de 84 ans. Je vous en ai parlé, j'y arriverai déjà largement plus tôt dans cette matinale.
2015, pas une bonne année pour le groupe État islamique. C'est dans l'édito en une de la Neue Luzerner Zeitung. Le journal estime que la reprise de Ramadi par les troupes de l'armée irakienne est un signal positif qui met les djihadistes sous une forte pression. Bémol, on ne voit pas encore de stratégie internationale claire contre Daesh.
Le portrait d'un chaudfonnier, nouvel ambassadeur de Suisse à Madagascar. Philippe Brandt explique dans l'Express et l'Impartial que la population est extrêmement accueillante, mais que bien des Malgaches vivent dans une pauvreté extrême.
Des réfugiés logés au bout du monde, reportage dans le Tagesanzeiger et le Bund à Riksgränsen. C'est une station de ski tout au nord de la Suède, bien au-delà du cercle polaire. La rumeur courait depuis quelque temps en Syrie. Qui veut aller en Suède se retrouvera esselé, isolé. Rumeur confirmée et certains réfugiés qui arrivent ici éclatent en larmes. Ils sont un peu plus de 600 à vivre là-bas, dans le froid, loin de tout, dans la toundra, parmi les loups.
Un smartphone prévu pour durer, si, ça existe. Et La Liberté nous présente cet appareil qui s'appelle Fairtrade, comme commerce équitable. L'appareil est épais, cher, mais il se répare. Donc, le consommateur s'y retrouve, assure son fabricant hollandais.
Enfin, grande interview de Harry Hohmeister dans la Berner Zeitung. Le patron de Swiss, sur le départ, fait son bilan. Swiss doit faire au moins 1,5 milliard de francs de bénéfices par année pour pouvoir continuer à investir. Le patron est confiant que la compagnie maintiendra ce niveau. Lui, qui s'en va vers de nouveaux horizons et qui prend de nouvelles responsabilités au sein du groupe Lufthansa.
Un mot sur une toute autre thématique, Johan Rochelle, on voit la Suisse qui pourrait organiser Genève 3 sur la crise en Syrie. Est-ce que vous militez pour une politique plus active de la Suisse sur ce terrain-là ?
À nouveau, là, le mot-clé de panache me semble particulièrement approprié. On aimerait voir une Suisse qui poursuit une politique des bons offices, qui reste une Suisse neutre, mais de manière active, qui s'engage plus fortement sur les relations internationales, qui propose de manière plus active alors cette fonction d'hôtelier, d'état hôte, elle accueille les gens à Genève pour débattre, pour organiser des conférences, pour résoudre des conflits, mais qui va au-delà de ce rôle d'hôtelier, qui se fait aussi réseauteur, qui se fait entremetteur entre ces différents acteurs. Et ça serait alors, cette fois-ci, loin de l'échelle européenne, mais à l'échelle globale, la Suisse comme cerveau de cette mondialisation, la Suisse comme force de proposition de cette mondialisation sur la question de la mobilité humaine, mais sur la question des différents conflits qui parcourent le monde. Là, il y a vraiment un rôle essentiel pour la Suisse à jouer.
Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous parler de panache ce matin, Johan Rochelle. Je rappelle, vice-président du Forhaus, groupe de réflexion sur la politique étrangère en Suisse. Une bonne journée.
Merci.